RCF. J'ai pu vivre mes passions. J'ai même pu en faire une matière philosophique. La philosophie ne m'a pas permis de vivre selon la raison, mais elle m'a donné plus d'une fois une raison de vivre. Et je pense lui avoir consacré l'essentiel de ma vie. Elle m'a en tout cas donné les plus grandes joies, celle de poser des questions avec des pourquoi et des qu'est-ce que, avec l'insistance inquiète de mon enfance et de croire afin d'apercevoir des éléments de réponse. Celle de m'efforcer, avec autant de plaisir que de peine, de dire le monde et de plaider pour l'universel. Ces mots du philosophe Francis Wolff nous reconduisent à l'essentiel. Quel fut le meilleur d'une existence philosophique? Comment dire le monde et penser à la première personne? J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Francis Wolff. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes philosophe, professeur émérite à l'École normale supérieure. Vous venez de publier un livre d'entretien dans lequel vous répondez aux questions que vous pose André Comte-Sponville. Le titre de l'ouvrage, Le monde à la première personne, publié aux éditions Fayard, donc en 2021. Alors, le premier chapitre concerne le devenir philosophe. C'est un commencement incontournable. Qu'est-ce que pour vous la philosophie, Francis Wolff? D'abord, une activité ou une manière de vivre?
Eh bien, c'est évidemment le dialogue entre ces deux pôles, une manière de vivre et une activité de pensée. Je compare souvent la philosophie à l'activité d'un adulte qui aurait gardé une pensée et un questionnement d'enfant. C'est pour ça que j'utilise cette métaphore un peu triviale du castrat. Les castrats au XVIIe, au XVIIIe siècle étaient des enfants dont on voulait qu'ils gardassent leur voix d'enfant, mais en leur faisant travailler avec une technique d'adulte. Alors quand nous sommes enfants, nous nous posons des questions, des qu'est-ce que et des pourquoi interminables auxquels nous n'avons pas de réponse. Mais voilà, les adultes se fatiguent, les enfants pensent à autre chose, ils pensent à jouer. Mais si l'on cultive ce goût du questionnement indéfini par ce qu'on peut appeler une technique d'adulte, c'est-à-dire argumentation, conceptualisation, déduction raisonnable et rationnelle, eh bien, on obtient peut-être quelque chose comme un esprit philosophe, c'est-à-dire celui qui ne se contente jamais des réponses qui lui sont données, qui va toujours plus loin, mais qui tente de le faire avec raison et concept.
Alors, cette activité philosophique, c'est aussi se heurter à des questions, des sujets qui peuvent être très difficiles, parfois même indéfinissables. Je pose la question, comme vous l'avez fait, pourquoi la musique, titre de votre ouvrage paru en 2015, ou qu'est-ce que le désir, ou qu'est-ce que l'amour? La tâche du philosophe n'est pas facile.
En effet, vous avez raison, la tâche du philosophe n'est pas facile, surtout lorsque, comme moi, on a tâché de chercher des universaux, c'est-à-dire des valeurs universelles pour toute l'humanité, sur des objets qui paraissent toujours, surtout à notre époque, particuliers, relatifs à une culture, relatifs à certains êtres humains. Alors vous avez cité la musique, vous avez cité l'amour, et là, dans un cas comme dans l'autre, le philosophe est au pied du mur. Pourquoi? Parce que la musique, on l'éprouve, on la ressent, elle nous émeut, elle nous bouleverse, elle nous fait danser, elle nous fait chanter. Mais au fond, est-ce que c'est bien le territoire du philosophe de se demander, avec des concepts et ses gros sabots d'arguments, ce qu'est la musique, pourquoi les hommes font de la musique? Eh bien, c'est ce que j'ai tenté de faire. Non pas sur telle ou telle musique, comme il s'agit de le faire parfois, la grande musique, la musique classique, mais sur toutes les musiques du monde. Et c'est cela le défi. Chercher dans l'ensemble des musiques possibles, des musiques que font les êtres humains, parce que partout il y a des êtres humains, il y a de la musique, même chez l'enfant. De façon accoative, l'enfant cherche le rythme, cherche la mélodie, se la répète en boucle. Eh bien, Pourquoi y a-t-il, dès qu'il y a des êtres humains, de la musique? Voilà une question philosophique qui
mais
ne
les questions
devient philosophique.
Oui, sont justement des questions surprenantes avec
exactement.
Vous. Exactement. Hein, et je pense que tout grand philosophe se confronte, comme disait Merleau-Ponty, à la non-philosophie, c'est-à-dire
exactement.
Aussi à ce qui est hors de son propre terrain. Et c'est cette dimension qu'on découvre avec un peu jubilation, quand même, quand on vous lit dans ce livre Le Monde à la première personne, ces entretiens, sous un mode un peu socratique, finalement, de dialogue. Et c'est même votre définition de l'humanité. L'homme est un être dialogique, un être de dialogue. Ça tombe bien pour notre émission aussi.
Et tout à fait, ça tombe bien à la fois pour l'émission et pour le livre dont nous parlons, puisqu'il est écrit à la première personne, évidemment, mais à condition de s'adresser à une autre personne. Parce que je pense qu'on ne peut parler à la première personne qu'à condition que ce soit un message adressé. Et donc, en effet, dialogique. Pourquoi je définis l'être humain comme un être dialogique? Oh, c'est un de mes thèmes essentiels, donc il serait très difficile de dire en quelques phrases. Tentons de le faire néanmoins. La raison, c'est facile à dire, mais au fond, les machines raisonnent mieux que nous. Le langage, eh bien, on dit parfois que c'est le propre de l'homme, mais il y a des animaux qui ont des systèmes de communication et d'expression extrêmement élaborés. Mais ce que ne possède aucune machine et ce que ne possède aucun autre animal que l'homme, c'est la faculté de raisonner en dialogue et par le dialogue, c'est-à-dire de raisonner en argumentant, en défendant une position, contre qui que ce soit qui pourrait éventuellement penser le contraire et qui généralement pense le contraire. Et dialoguer avec soi-même, Platon le disait déjà et définissait ainsi la pensée, dialoguer avec l'autre, c'est l'activité par excellence de l'être humain. Au fond, l'être humain, c'est un bavard. Quand il n'a rien à dire, il a toujours quelque chose à ajouter, quelque chose à dire. Vous voyez, j'aime bien prendre cette image de l'être humain, c'est les deux vieillards sur le banc du village. Ah, ça se rafraîchit. Ah non, il fait un peu moins froid qu'hier. Voyez-vous, ça c'est... Ou alors les gamins dans la cour de l'école. Ah, t'es ma copine. Ah non, t'es plus ma copine. Voilà, ça c'est l'être humain. Est-ce qu'un autre animal a quelque chose à dire lorsqu'il n'y a rien à dire? Eh bien non, nous avons besoin de l'autre, nous avons besoin du dialogue avec l'autre et nous avons besoin de dire le monde à la première personne, à condition que ce soit à une autre personne.
Alors, la figure de Socrate a beaucoup compté. Pour vous, vous aviez écrit un petit texte, d'ailleurs, sur Socrate. Et on retrouve ce sens aussi grec du logos. Et c'est un terme très difficile à traduire. Discours, raison, langage. C'est une matrice pour nous aujourd'hui, dans
bien
la
sûr,
philosophie encore.
Bien sûr, la philosophie naît avec Socrate. Et je dirais même, elle naît dans le dialogue de Socrate avec les sophistes. Elle ne naît pas de la tête, du cerveau de Socrate, elle naît de la place de l'agora à Athènes ou du gymnase où Socrate rencontrait ses interlocuteurs. Elle naît donc de ce dialogue. Ce qui fait au fond que la philosophie se distingue de la science, qui est une autre entreprise rationnelle. C'est une autre entreprise rationnelle et qui, elle aussi, doit faire la part égale entre raison et expérience.
Parce que le logos, ce n'est pas seulement un discours, c'est aussi ce qui nous ouvre à quelque chose qui est au-dessus de nous.
Exactement. Oui. Le logos, c'est à la fois discours, raison, mais c'est aussi ce qui nous permet, vous l'avez dit, d'appliquer notre raison à toute forme d'expérience, mais au contraire de la science, à une forme d'expérience qui peut dépasser l'expérimentation ou l'expérience sensible. C'est ce qu'on appelle la métaphysique, et je crois être de ceux qui ont tenté de réhabiliter cette métaphysique.
Thank you.
Dialogue, Sarah Brunel.
Francis Wolff, vous ancrez votre dialogue, votre livre d'entretien, Le monde à la première personne, dans l'évocation de votre histoire familiale. Vous dites que vous n'aimez pas parler de vous, mais de votre histoire familiale, c'est différent. Vos parents ont eu une histoire très singulière, vos grands-parents aussi, ancrée dans l'histoire des Juifs européens. Je commence l'histoire de la famille Wolff en Sarre, à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec la France. Votre père a 20 ans quand Hitler prend le pouvoir. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur cette histoire? Je pense à la figure aussi de votre grand-père, Ferdinand, héros du peuple allemand, pour son action pendant la guerre entre 14 et 1918.
Oui, c'est une des raisons qui m'ont conduit à écrire ce livre sous cette forme dialoguée qui, en effet, ne m'est pas habituelle. J'ai voulu, bien sûr, faire une synthèse de mes travaux, montrer l'unité de mon travail philosophique, mais j'ai voulu aussi témoigner, j'ai voulu aussi transmettre à mes enfants, à mes petits-enfants, une histoire qui devient de plus en plus difficile à transmettre, à expliquer, tant les témoins disparaissent. Alors, très rapidement, mon grand-père paternel et en effet, héros du peuple allemand, il a fait la Première Guerre mondiale côté allemand, il en est revenu hémiplégique de cette guerre. Et lorsque Hitler prend le pouvoir en 1933, alors qu'il habite en Sarre, que la Sarre est rattachée à l'Allemagne nazie en 1935 suite à un référendum organisé par la Société des Nations, l'ensemble de ses enfants, dont mon père, se disperse dans toute l'Europe, voire dans le monde entier, l'Argentine, la Palestine, les États-Unis. Mon père arrive en France, mais mon grand-père reste en Allemagne, absolument persuadé que ça... figure de héros du peuple allemand, ses décorations, ses blessures gravissimes de guerre le protègent. Il n'en a rien été. Il a fini par être déporté avec son épouse à Theresienstadt, où il est mort du côté de ma mère. C'est une histoire encore plus... singulière, si je puis dire, même si le terme est sans doute impropre. Ma mère, enfin la mère de ma mère, si je puis dire, ma grand-mère, que je n'ai évidemment pas connue, lorsque, en 1914, elle habite en Moselle. Mais la Moselle est allemande à l'époque. Et lorsque ma grand-mère est enceinte de ma mère, elle se rend chez sa mère quelques kilomètres plus loin, de l'autre côté de ce qui est à l'époque et aujourd'hui encore l'Allemagne, à Bollendorf, pour accoucher, de telle sorte que ma mère se retrouve allemande par le sol et par son père qui revient de captivité côté aussi, si je puis dire, de l'Empire austro-hongrois, lui-même, mon grand-père, tchèque, alors même qu'il est né dans une province de l'Empire austro-hongrois polonaise, Galicie, et donc mes grands-parents se retrouvent en France, mais étrangers. Et ma mère étrangère et ne devient française que par mariage avec mon père. Je rentre un peu trop dans les détails sans doute.
C'est une histoire complexe de nationalité, de frontières qui ont bougé, pour dire deux choses importantes.
Que cette distinction que certains font aujourd'hui entre des Juifs français qui auraient été épargnés, et certains disent même grâce à Vichy, alors que c'est évidemment la police française qui a mené toutes ces rafles, et arrêté mes grands-parents, et les Juifs étrangers est une absurdité totale, puisque à quoi a pu tenir le fait que mes grands-parents étaient étrangers? C'est un pur hasard de frontières. Je raconte souvent Cette histoire que j'ai lue que j'ai lue il y a quelque temps dans un livre de Daniel Mendelssohn qui s'appelle Les Disparus, à propos de l'idée de nation dont on fait aujourd'hui parfois l'alpha et l'oméga de l'humanité. Alors, il raconte l'histoire suivante, c'est l'histoire d'un type qui est né en Autriche, qui est allé à l'école en Pologne, qui s'est marié en Allemagne, qui a eu des enfants en Union soviétique et qui meurt en Ukraine. Et pendant ce temps-là, dit-on, il n'a jamais quitté son village. Alors ça pourrait s'appliquer à mon grand-père maternel, Hugo Seiche, à cela près que, comme je le dis, cette histoire n'est pas à rire, mais plutôt à pleurer. Il a quitté Landshut en Galicie, où il était né dans l'Empire austro-hongrois, avec une nationalité tchèque, et je n'ai jamais compris pourquoi. Il a fréquenté une école polonaise, s'est marié en Allemagne, a vécu et travaillé en France, où il a eu 3 filles, 2 filles françaises et une, ma mère, allemande, et il en a été déporté de France comme juif polonais à travers l'Europe, jusqu'à un camp d'extermination situé en Pologne, à Auschwitz. Donc vous voyez que cette histoire est à la fois complexe, j'essaie de l'éclaircir, mais c'est aussi, si je puis dire, un des fils conducteurs de ma pensée de l'universel. Je ne crois pas à l'idée de nation, je ne crois pas parce que je pense que la nation et le nationalisme sont toujours très étroitement associés. Je crois bien à la diversité culturelle, je crois à la culture française, je crois à la langue française. J'ai baigné dans cette culture et dans cette langue française à qui je dois tout ce que je suis, ou une grande partie de ce que je suis. Mais je pense que la diversité culturelle n'est possible que sous le chef d'un universel de second niveau. C'est-à-dire, c'est le meilleur garant, de la même façon que la laïcité, si je puis dire, est garante de la liberté des cultes, eh bien, l'universalité humaine est garante de l'extraordinaire richesse de la diversité culturelle humaine. Donc, nous n'avons pas à nous enfermer dans des frontières pour défendre nos identités.
Francis Wolff, je reviens à votre histoire familiale et aux tragédies qui ont marqué, qui ont assombri cette histoire. Vous êtes étudiant dans les années 1970. Vos parents, enfin votre mère, vous a-t-elle parlé de cette histoire? Quelle connaissance, comment en avez-vous pris conscience et quelle place cela a-t-il eu dans votre vie?
Une place importante dans mon enfance, mais je dois dire que les récits de ma mère étaient extrêmement parcellaires. Ils étaient mêlés d'une émotion qui la submergeait, des cauchemars qu'elle n'arrêtait pas de faire et dont elle me livrait, dont elle nous livrait à ma sœur et moi, des moments, des échos, et en particulier de ces fameuses nuits où ses parents ont été arrêtés par la police française sous ses yeux. D'abord, son père, mon grand-père, lors de la rafle du Veldiv, puis quelques mois plus tard, ma grand-mère, pour la même destination d'Auschwitz. Et donc, c'était ces récits. Elle nous parlait tout le temps de ces coups de pied dans la porte à 4 heures du matin, dans leur petit appartement d'Ivry où ils vivaient tous ensemble. C'était cela, les récits. Et donc, c'était très difficile pour un esprit, une âme d'enfant, de comprendre de quoi il s'agit. Et lorsque je l'interrogeais, c'était toujours des récits parcellaires. D'ailleurs, il est vrai que c'était très difficile pour elle d'en faire une histoire raisonnable, rationnelle, un récit structuré. Elle nous montrait, à ma sœur et moi, l'étoile jaune qu'elle avait portée pendant la guerre et qu'elle cachait tant qu'elle pouvait un petit peu sous son foulard. Et voilà, tout cela faisait dans ma cervelle d'enfant quelque chose comme un mélange d'émotions et d'interrogations qui ne sont pas pour rien, peut-être, dans la quête que j'ai menée par la suite.
RCF, Sarah Brunel.
Francis Wolff, nous évoquions des moments importants de votre histoire et de celle de votre famille. Une famille qui n'était pas, enfin pour vous-même, enfin vos parents, qui n'était pas pratiquante. Vous allez avoir une instruction religieuse, vous relatez cet événement grâce à l'insistance d'un oncle américain. Et vous faites l'évocation d'une anecdote d'un rabbin qui a conté, le rabbin Edouard Gourevitch. Et cette réflexion bas, quand on est un juif comme toi, on n'en sera jamais complètement athée. Alors, cette question du non-athéisme, quelle part de non-athéisme vous reste-t-il? C'est une question que vous posez André Comte-Sponville. Comment vous vous situez par rapport à cette question?
C'est une question à laquelle je n'ai pas encore trouvé de réponse définitive. Je crois qu'il y avait quelque chose de très puissant dans la parole d'Edouard Gourevitch, rabbin qui a beaucoup compté pour moi dans mon adolescence. Je dis même que ça a été peut-être mon seul éducateur. J'ai eu des professeurs, j'ai eu des enseignants, j'ai eu des parents, mais lui, il a été vraiment un éducateur. Il m'a fait passer à l'âge adulte, et pas simplement parce qu'il m'a permis de faire ma bar mitzvah. Que reste-t-il lorsqu'on s'est senti profondément impliqué dans l'histoire du judaïsme et dans la tradition juive? Lorsqu'on ne croit plus au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, eh bien, il en reste quelque chose que j'appelle la croyance en une ère messianique. Je pense sincèrement, je crois sincèrement, qu'en dépit de tous les massacres, génocides que nous avons pu connaître et que nous connaissons encore et que nous connaîtrons encore, nous allons progressivement vers une unification de l'humanité qui prend des voies extrêmement détournées. Et je pense qu'il y a quelque chose comme un salut de l'humanité à l'horizon. Et j'ai coutume de dire que, enfin j'ai coutume, je n'ai pas coutume de le dire, mais j'en suis arrivé à penser que c'est quelque chose comme la réalisation de ce que dans la tradition juive on appelle l'ère messianique. Est-ce que c'est religieux? Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est philosophique? Je ne peux pas vous dire.
Alors vous citez un mot du poète Éluard, il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci. Un autre monde, votre autre monde, c'est aussi l'art, c'est aussi un paysage peint par Vermeer, vous dites Bérénice au théâtre, le Magnificat de Bach. Pourriez-vous nous parler de ce monde-là?
Oui, il y a plusieurs façons de se rapporter au monde qui est nôtre, et pas simplement une réalité qu'essaient de connaître les scientifiques. Au monde qui est nôtre, je pense que l'effort du philosophe, c'est évidemment d'essayer de le comprendre le mieux et de restituer au mieux l'extrême variété de l'expérience que les hommes peuvent en faire. Mais il y a une autre façon qui est non pas d'essayer de le comprendre, mais d'essayer de le représenter. Et ce qui m'a semblé, c'est un des fils conducteurs aussi de ma philosophie, si je puis dire, ce qui m'a semblé le plus extraordinaire, c'est de voir que partout il y a de l'humanité, je l'ai dit tout à l'heure, il y a de la musique, il y a des images et il y a des récits. Ce sont trois universaux de la représentation humaine. Et chez tous les enfants aussi, il y a un besoin de musique, de rythme, de mélodie. Il y a un besoin d'images représentées, faire des dessins. C'est maman, ça n'est plus maman, c'est la maison, c'est une fleur. Et un besoin de récits, de se raconter des histoires. Pourquoi des récits? Eh bien parce que c'est par les récits que nous acquérons une identité. Je suis né tel jour, je suis né de tel et tel parent, voici mon histoire, voici ce que je suis par ce que j'ai été. C'est la structuration du récit, et ça c'est une idée que j'emprunte en partie à Paul Ricoeur, C'est par la structuration du récit que nous forgeons notre identité.
Mais ce que vous évoquez aussi, ce sont ces puissances évocatrices, je pense à la peinture ou à la musique, où nous ne sommes pas stricto sensu dans un récit, hein, mais une manière d'imaginer d'autres mondes ou d'exprimer ce qui peut-être dépasse les langues différentes et qui nous ferait accéder à quelque chose de profondément humain, à une dimension à la fois charnelle et peut-être universelle aussi de l'humain.
Tout à fait, vous avez raison. Je dis, nous avons trois grandes questions que nous nous posons. La question qu'est-ce que, la question pourquoi et la question qui. Eh bien, à ces trois questions, il y a trois arts qui répondent à leur manière. Les arts de l'image répondent d'une certaine manière à la question qu'est-ce que, parce qu'elles représentent des choses, n'importe quoi. Ça peut être un portrait, ça peut être une nature morte, ça peut être un paysage, mais des choses sans événement. C'est-à-dire, on veut fixer les choses une fois pour toutes, comme l'enfant veut fixer dans l'image le visage de l'être aimé. Il y a en revanche des musiques. Les musiques, c'est l'inverse. Les musiques nous plongent dans un autre monde, un monde d'événements sans choses, où les choses sont devenues inutiles. Nous n'avons pas besoin de nous représenter ce que représente la musique. Elle suffit à nous émouvoir, à nous bouleverser. Voilà pourquoi nous forgeons d'autres mondes avec ce monde. Un monde de choses sans événements, un monde d'événements sans choses et un monde de personnes qui forge notre identité.
Cette reconduction, vous nous reconduisez à la dimension profondément humaine ici, hein, de l'expression artistique comme de la philosophie. Merci infiniment, Francis Wolff. Quel bonheur de dialoguer avec un philosophe aujourd'hui. C'est une joie de notre dimension, de notre humanité. Je rappelle le titre du livre que vous venez de publier, Francis Wolff, donc Le monde à la première personne. Entretien avec André Comte-Sponville, avec votre ami André Comte-Sponville, publié aux éditions Fayard. Merci également à Pierre-Henri Paget à la technique.